nous sommes apparus sur Terre bien avant les humains. Nous avons survécu à des cataclysmes qui ont porté des milliards de vies. Nous avons tenu bon jusqu'ici. Mais une poignée d'entre vous est en train de façonner un monde qui nous anéantira tous. Nous sommes tour à tour traités d'indésirables, de nuisibles, d'invasifs. Nous sommes piégés, emprisonnés, empoisonnés, massacrés. Malgré cette époque maudite, un petit nombre d'humains essaient de s'organiser et de se battre pour que nous puissions vivre en paix. Décidément, vous êtes imprévisibles. Nous voulons aujourd'hui dénoncer nos agresseurs et rendre hommage à celles et ceux qui nous ont aidés tout au long de notre histoire commune. Je suis le Martin Pêcheur. Nous sommes les oiseaux, nous sommes le peuple ailé, et nous avons bien des choses à raconter. Ceci est notre tribunal. Épisode 6. Le Grand Tétra. Nous sommes à Bolgenhang, près de Davos, en Suisse, le 24 décembre 1934. En cette veille de Noël, l'ingénieur Ernst Kornstam inaugure une invention qu'il a fait breveter et dont il a confié la construction à la société allemande Adolf Bleichert & Co. Il s'agit du premier téléski à enrouleur. En effet, le développement du tourisme hivernal dans l'entre-deux-guerres, et plus encore après la Seconde Guerre mondiale, va s'accompagner du développement d'infrastructures. Téléphériques, télécabines, télésièges et autres funitels. Ces appareils bruyants, qui font le bonheur des touristes, vont prendre de plus en plus de place sur des sommets autrefois paisibles. Pourtant, le silence hivernal cachait des formes de vie discrètes et pourtant élégantes, dont les voix vont peiner à couvrir le bruit du métal. Chères auditrices, chers auditeurs, couvrez-vous pour la séance d'aujourd'hui et tendez l'oreille. Ouvrons l'audience de celui qu'on appelait autrefois Grand Coq de Bruyère, le Grand Tétra. Le Grand Tétra est un gallinacé, cousin de nos poules domestiques, le plus grand de sa famille. Il mesure entre 60 et 90 cm de long, pour une envergure de 90 à 130 cm, et un poids qui n'excède pas 5 kg pour les plus gros mâles. En parlant du mâle, celui est nettement plus gros que la femelle. Son plumage est très sombre, avec une tache ronde, blanche, frappante, au point d'attache des ailes, un bec jaune, fort écrochu. Il dresse sa queue assez longue en éventail lors de la parade. La femelle se reconnaît à son plumage plus clair, plus roussâtre, avec des taches plus marquées, sauf sur sa poitrine et sa gorge brun orangé. Le mâle et la femelle ont une tache rouge au-dessus des yeux qui semble leur dessiner un sourcil. Cet oiseau peut voler avec agilité sur des courtes distances, mais contrairement aux espèces que nous avons déjà évoquées dans ce tribunal, vous ne pourrez pas les observer en levant vos yeux vers le ciel. Pour les observer, vous devrez vous armer de patience et vous rendre dans une forêt ancienne et dense d'un massif montagneux de France. Pyrénées, Massif Central, Jura ou Vosges. Le Grand Tétra est essentiellement un végétarien, qui se nourrit de feuilles, bourgeons, fleurs et fruits, sauf dans les premiers mois de sa vie où il se nourrit d'invertébrés. La parade nuptiale a lieu dès le mois de janvier. Une fois accouplées, les femelles s'isolent dans des dépressions garnies d'herbes et d'aiguilles de pin, le plus souvent cachées au pied d'un arbre pour nicher. La ponte de 6 à 8 œufs est déposée entre mi-avril et mi-juin. Une ponte de remplacement est possible si la première est perdue au début de l'incubation. Celle-ci dure 25 jours, pendant lesquels la femelle, qui couve seule, quitte le nid matin et soir pour se nourrir. Les jeunes sont capables de vol précoce dès l'âge de 2 semaines, mais la croissance complète dure plusieurs mois. Les mâles n'acquièrent leur poids adulte qu'à l'âge de 1 an. En hiver, alors que d'autres oiseaux migrent vers le sud pour trouver leur pitance, celui-ci reste sur place. En l'absence d'autres végétaux disponibles à cause du froid et de la neige, il mange presque exclusivement des aiguilles de conifères. La consommation de ces éléments à faible valeur calorique est permise par un très long cécum pour digérer la cellulose et l'ingestion de gravier pour le broyage mécanique. Pour trouver ces derniers, il vient régulièrement picorer le long des routes. Il est estimé que le mâle doit absorber plus de 400 grammes d'aiguilles quotidiennement pour subvenir à ses besoins. Ce régime très frugal en hiver le rend vulnérable. En effet, son alimentation étant très faible en apport calorique, le moindre stress peut affecter ses ressources et le pousser à l'épuisement. Sans surprise, les principales menaces qui pèsent sur cet oiseau sont la destruction et la fragmentation de son habitat. Les massifs forestiers, gérés avec une optique sylvicole depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se rajeunissent. Le nombre de strates et d'espèces végétales diminue, ce qui rend la recherche de nourriture ou la capacité de se cacher des prédateurs bien plus complexe pour ces oiseaux. Par ailleurs, l'implantation des domaines skiables, routes d'accès, bâtiments, pistes et bien sûr tous les dispositifs de remontée mécanique, dispositifs de déclenchement des avalanches, empiètent sur les habitats favorables au grand tétra. Au-delà de l'habitat rogné par les activités humaines, le dérangement par les activités touristiques et de loisirs, en particulier en période hivernale et printanière, est considéré comme une seconde cause sérieuse de diminution des effectifs de grand tétra. Le développement incontrôlé et toujours plus important des activités de plein air aux quatre saisons permettent aux pratiquants de s'aventurer dans des lieux auparavant peu fréquentés, réduisant encore plus la quiétude pour la faune. Enfin, pour ne rien arranger, l'espèce est classée parmi les espèces gibiers et est encore aujourd'hui considérée comme un trophée de chasse, du fait de son élégance et de sa rareté. La chasse légale ou le braconnage des coqs sont susceptibles d'achever des populations déjà fragiles. L'espèce est présente dans les principaux massifs montagneux d'Europe et sur une large partie des pays scandinaves, des pays baltes et de la Russie du Sud, en raison des nombreuses forêts de conifères qu'on y trouve. Si l'espèce semble tant bien que mal se maintenir au niveau mondial, la situation est catastrophique en France. L'espèce est classée en danger critique sur la liste rouge de l'IUCN dans les anciennes régions d'Alsace et de Franche-Comté, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est en danger dans l'ancien Languedoc-Roussillon. On estime par exemple que l'espèce a perdu 80% de ses effectifs depuis 1960 dans les Pyrénées, où subsistent à peine environ 2000 coqs. Heureusement, la résistance a fini par s'organiser. En 1979, un groupe de naturalistes crée de manière informelle le groupe Tétravauge, qui deviendra une association officielle en 1990. Leur but est de défendre une gestion adaptée des forêts sur leur territoire pour protéger les tétras, mais également d'autres espèces de forêts de montagne, comme les chouettes de Tengmalm, les chevêchettes d'Europe et les gélinottes des bois. Leur petit frère, le groupe Tétrajura, leur emboîte le pas en 1991. Des partenariats avec des institutions, comme l'Office national des forêts ou les parcs naturels régionaux, voient le jour. On se met alors à développer des zones de quiétude, interdites aux touristes, comme dans le parc naturel régional du Haut-Jura ou dans le parc national des Pyrénées. En juillet 2007, le groupe Tétra France demande un statut d'espèce protégée pour le grand tétra dans les Pyrénées, statut qu'il a déjà obtenu dans les autres massifs montagneux français. Dans le sud-ouest, 9 années de suite, les tribunaux administratifs de Pau et Toulouse, suivis par la cour d'appel de Bordeaux, ont rejeté les arrêtés préfectoraux permettant la chasse de cette espèce. À échelle nationale, le ministère de l'écologie et du développement durable lance en 2009 une stratégie nationale de conservation du grand tétra, rédigée par un groupement constitué de la Ligue de protection des oiseaux, de l'Office national des forêts, du groupe Tétra France et du réseau des réserves naturelles de France, accompagné par des experts de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et d'experts indépendants. Le document est finalisé début 2012 et sa mise en œuvre est confiée aux DREAL, qui s'appuieront sur l'ONCFS. Enfin, le 1er juin 2022, sur requête de plusieurs associations, dont France Nature Environnement et France Nature Environnement Midi-Pyrénées, le Conseil d'État ordonne à la ministre de la Transition écologique de prendre un moratoire de 5 ans sur la chasse du grand tétra. Il motive sa décision par le fait que la chasse du grand tétra n'est pas compatible avec le maintien de l'espèce et qu'il est nécessaire de la suspendre sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l'espèce dans les différents sites de son aire de distribution. Suite à une consultation publique, le moratoire finit par être adopté. Le combat est loin d'être gagné. Mais qui sait ? À force de mobilisation, les habitants des montagnes continueront peut-être à se faire réveiller le matin par des coqs, pourvu qu'ils soient sauvages. Les chants d'oiseaux que vous avez écoutés ont été enregistrés par Jarek Matuziak et sont disponibles sur xeno-canto.org. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. C'était le Martin Pêcheur. Merci de m'avoir écouté.